Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit entre Israël et le Hezbollah. Des milliers de Libanais déplacés par la guerre ont déjà pris la route pour regagner leur domicile. À l'international, on appelle au respect de la trêve. En Israël, Benjamin Netanyahou promet de continuer le combat autrement. Tombera pas, le gouvernement français joue toujours sa survie politique menacée d'une motion de censure sur le budget. Aujourd'hui se tient une commission mixte paritaire, certes technique, mais importante, comme nous l'expliquera Raphaël Delvolvé dans ce journal. Et puis le procès des viols de Mazan a un retentissement international. Alors que la parole est à la défense de Dominique Pollico cet après-midi, la presse étrangère n'a pas quitté les bancs de la salle d'audience d'Avignon. Le courage de Gisèle Pellico et sa volonté de rendre public ce procès pour que la honte change de camp ont traversé les frontières. De longues files de véhicules à la sortie de Beyrouth, voilà le premier signe du cessez-le-feu au Liban. Beaucoup d'habitants du sud du pays et de la plaine de la Beka n'ont pas attendu pour prendre la route et rentrer chez eux, malgré les consignes de prudence des autorités. Cette nuit, à 4h du matin, heure locale, la trêve est entrée en vigueur entre Israël et le Hezbollah. Après l'affaiblissement du mouvement chiite, cet accord est-il une victoire pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? À Jérusalem, des éléments de réponse avec Sami Bourhelifa.
Pour le Premier ministre israélien, il s'agit de bien plus qu'un simple arrêt des combats. « Je vous ai promis la victoire et nous remporterons la victoire », a déclaré hier soir Benjamin Netanyahou. Un succès notable, cet accord de cessez-le-feu permet de dissocier les fronts. Jusque-là, le Hezbollah a toujours répété qu'il cesserait ses tirs contre Israël lorsqu'Israël stopperait sa guerre à Gaza. Sur ce point, la milice chiite a dû capituler. Mais en Israël, cet accord est également perçu comme une forme de reddition, car Benjamin Netanyahou avait promis à son peuple l'éradication totale du Hezbollah. Échec. Alors, le Premier ministre israélien a tenu à rassurer les plus sceptiques dans son camp. D'un ton martial, il menace « Je m'engage à faire respecter au Hezbollah ce cessez-le-feu et je n'hésiterai pas à attaquer de nouveau le Liban en cas de violation de l'accord. Cette trêve, c'est pour mieux se réarmer et se concentrer sur d'autres cibles », indique-t-il. Dans son viseur, Gaza, encore et toujours, mais aussi et surtout l'Iran, qui l'empêchera de se doter de l'arme nucléaire, promet Benjamin Netanyahou. Sami Bourhelifa, Jérusalem, RFI.
Le rapport fait près de 900 pages et il est accablant pour Jair Bolsonaro. Selon la police brésilienne, l'ancien président d'extrême droite a non seulement activement participé à un projet de coup d'État pour se maintenir au pouvoir en 2022, mais il avait aussi connaissance d'un plan d'assassinat de son successeur Lula. Selon les enquêteurs, le plan du coup d'État aurait échoué car les principaux commandants de l'armée brésilienne auraient refusé d'y participer. La mobilisation des agriculteurs continue en France après le vote hier soir à l'Assemblée nationale sur le Mercosur. Pas d'unanimité, mais les députés ont largement suivi le gouvernement dans son opposition au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Le gouvernement français qui est toujours sous le coup d'une menace de censure sur le projet de budget. Après les mises en garde de déstabilisation de la France de Michel Barnier hier soir, c'est la porte-parole du gouvernement qui est montée au créneau ce matin. Maud Bréjon l'assure, la gauche et l'extrême droite, en faisant tomber le gouvernement, prendraient le risque d'envoyer le pays dans le mur. Aujourd'hui a lieu un premier rendez-vous très important dans cet interminable feuilleton, la commission mixte paritaire, la CMP, composée de 7 sénateurs et de 7 députés, va tenter de trouver un compromis sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Au-delà de l'aspect très technique de cette réunion, son issue va être déterminante pour l'avenir du gouvernement. Raphaël Delvolvé du service politique de RFI nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment marche cette CMP?
Alors, derrière ce terme effectivement affreusement technique, il y a une réunion que le gouvernement convoque généralement lorsque les deux chambres du Parlement ont voté différemment sur un texte. En l'occurrence, le budget de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'a pas pu le voter, faute de temps, et le Sénat l'a approuvé pas plus tard qu'hier, après l'avoir mis à sa sauce, si j'ose dire. Pour abréger le débat parlementaire, on convoque donc la CMP pour trouver un compromis et s'éviter une nouvelle navette. J'ajoute que sur les textes budgétaires, cette option est souvent privilégiée car leur temps d'examen est encadré strictement par la Constitution. Alors que va-t-il se passer tout à l'heure? Eh bien, au vu de la composition de la commission, 8 parlementaires issus du socle commun favorable au gouvernement et 6 parlementaires d'opposition, elle doit en principe être conclusive, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire aboutir sur un texte, ce qui voudrait dire que dès lundi, le budget de compromis de la sécurité sociale serait présenté à l'Assemblée nationale avant un vote définitif.
Un vote qui, on le sait, ne devrait pas avoir lieu.
Oui, le Premier ministre Michel Barnier, dépourvu de majorité absolue à la Chambre basse, devrait avoir recours au 49-3. Il l'a quasiment confirmé hier soir à la télévision. Il utilisera assurément, a-t-il dit, cette arme constitutionnelle permettant, vous le savez, une adoption sans vote, sauf si le gouvernement est censuré. Et c'est là que cette CMP prend toute son importance, car elle va donner un calendrier à deux dates très importantes. La première, c'est donc l'utilisation du 49-3 entre lundi et mercredi prochain. La deuxième, c'est le vote de la motion de censure que la gauche a déjà prévu de déposer et qui interviendra en fin de semaine prochaine en principe. Voilà qui donnera une occasion de connaître les réelles intentions des oppositions. Le Rassemblement national mettra-t-il dès le budget de la Sécu sa menace à exécution en votant la censure? La gauche fera-t-elle réellement bloc au moment où certains socialistes se demandent s'il faut faire tomber le gouvernement maintenant? La semaine prochaine risque donc d'être décisive et pleine de suspense, le tout sous l'œil de marchés financiers de plus en plus nerveux. Hier, l'écart entre les taux d'emprunt de la France et de l'Allemagne a atteint son plus haut niveau depuis 2012.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Place à la défense cet après-midi au procès des viols de Mazan devant la cour criminelle. L'avocate de Dominique Pellicot prendra la parole en premier, puis ce sera au tour de la défense de ses 50 co-accusés. Dominique Pellicot est poursuivi pour viol sur son ex-épouse et pour l'avoir fait violer par des inconnus recrutés sur Internet en la droguant. Ils risquent tous entre 4 et 20 ans de prison. Chaque jour, le courage et la détermination de Gisèle Pellicot irradient au-delà des frontières françaises. Reportage à la cour criminelle du Vaucluse, Tanita Fallet.
Sous les applaudissements du public, Gisèle Pellicot, entre les caméras et les micros. Parmi les journalistes qui la suivent, nombreux sont des correspondants étrangers. Sabrina Seberg, le visage habillé par de grandes lunettes rondes, en fait partie. Elle travaille pour la télévision allemande.
En fait, au début, on y allait juste parce que c'était un peu le fait divers un peu sordide. Mais en fait, c'est Gisèle Pellicot qui a fait que ce procès change. Et puis, en fait, elle est devenue une icône. Et c'est ça qui a fait que on s'y intéresse un petit peu en Allemagne. Il y a déjà Angela Merkel qui en a parlé. Là, Gisèle Pellicot, elle fait la couverture de Vogue Allemagne. Donc, on en parle tout le temps. Et ça résonne chez toutes les femmes, que ça soit en France ou en Allemagne.
Et je m'appelle Raquel Villa-Ezija. Et je suis correspondante du journal El Mundo et en France et je couvre les procès depuis septembre.
Cigarette à la main, elle confie avoir insisté auprès de sa rédaction pour y assister. Car en Espagne, il y a 2 ans, c'est un procès qui a permis d'intégrer le consentement à la définition légale du viol.
Bon, en Espagne, on est un peu à l'avance par rapport à la France et sur les droits des femmes et les consentements. On a eu ces débats-là. Et cela fait quelques années après l'affaire de La Manada. Et c'était un viol en réunion. Et après, on a changé la loi. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en Espagne.
Gisèle Pellicot.
Elle est devenue une icône féministe en Espagne.
C'est au contraire le recul des droits des femmes aux États-Unis qui inquiète Monique El-Faizi. Elle travaille pour The Persistent, un magazine féministe américain.
C'est des enjeux qui sont présents dans ce procès. Ils sont universels. Ce procès, ça parle le fait que dans les systèmes patriarcales, les femmes sont vues comme des objets pour le plaisir des hommes. Ça, c'est pas que français, ça.
Particulièrement dans un pays où Donald Trump vient tout juste d'être réélu, l'homme qui disait attraper les filles par la chatte. Elle a d'ailleurs écrit un ouvrage sur le rapport aux femmes du président.
Dans son première présidence, on a vu que Trump avait un schéma de comportement où les femmes étaient des objets pour lui. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit ici.
Et qui rend la couverture de ce procès d'autant plus importante. Selon elle, elle espère, comme Raquel et Sabrina, que sa médiatisation permettra de changer profondément les mentalités au-delà de la salle d'audience.
C'était le reportage de Tanita Fallet au procès des viols de Mazan. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre le grand reportage.